RFI, Radio France Internationale, il est midi à New York, 17h à Paris, 18h à Gaza.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 22 mars et à la une de cette édition, nouvel échec pour le Conseil de sécurité de l'ONU. La plus haute instance des Nations Unies n'a pas réussi à se mettre d'accord pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Nous sommes à deux jours de l'élection présidentielle au Sénégal. Une figure de la politique sénégalaise, Karim Ouad, appelle à voter pour le candidat Bassirou Diomaye Faye. Et puis, 22 mars, journée mondiale de l'eau, un bien plus que précieux. Il est vital, dossier à la fin du journal avec Stéphanie Schuller. Voilà pour les titres. Le veto signifie en latin « je m'oppose ». Chine et Russie ont utilisé aujourd'hui leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, droit accordé uniquement aux 5 membres permanents de ce Conseil qui leur permet de bloquer toute résolution, tout texte qui leur est soumis. Ce matin, à New York, sur proposition des États-Unis, le Conseil de sécurité devait se prononcer sur un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés, disait le texte. Alors que peut-il se passer maintenant? Tout d'abord avec vous, Nicolas Falaise, expliquez-nous pourquoi le projet de résolution a-t-il été rejeté? Nicolas Falaise, que nous retrouverons dans un instant pour nous expliquer pourquoi ce projet de résolution a-t-il été rejeté aujourd'hui par le Conseil de sécurité. Pendant ce temps-là, Anthony Blinken est en Israël. Le secrétaire d'État américain cherche à convaincre le Premier ministre israélien d'éviter une offensive terrestre sur la ville de Rafah. Mais Benjamin Netanyahou lui a fait savoir qu'Israël comptait bien mener cette opération militaire à Rafah et d'ajouter même si les États-Unis ne le soutenaient pas. Toute dernière information à ce sujet, le ministère de la Santé du Hamas vient d'annoncer un tout dernier bilan concernant le nombre de morts depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier entre Israël et le Hamas. Il s'élèverait à 32 070 morts. Nicolas Falaise est avec nous pour nous expliquer pourquoi la Chine et la Russie ont exercé leur droit de veto ce matin à New York.
Sur les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, 11 ont voté oui au texte américain. Un pays s'est abstenu et 3 pays ont voté contre, Russie, Chine et Algérie. Mais Russie et Chine sont des membres permanents du Conseil de sécurité, disposant du droit de veto. Leur vote contre ont donc automatiquement entraîné le rejet du texte proposé. Les pays qui ont voté contre la résolution américaine ont voulu dire leur refus d'un texte jugé trop faible et ils ont aussi voulu mettre les États-Unis en difficulté. Alors que peut-il se passer maintenant? Dans les prochaines heures, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait voter sur un autre texte, rédigé cette fois par plusieurs pays membres. Et puis la France annonce qu'elle travaille elle aussi à un projet de résolution demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Nicolas Falaise dans votre journal en français facile. Cet autre conflit meurtrier entre la Russie et l'Ukraine. Le président Zelensky annonce la plus importante attaque russe contre ses infrastructures énergétiques depuis le début de cette guerre. La nuit dernière, des frappes russes ont visé le plus grand barrage du pays, mais aussi le réseau électrique de la ville de Kharkiv ou encore de simples maisons d'habitation. Attaques qui ont fait au moins 5 morts, déclarent les autorités ukrainiennes. L'actualité en Argentine à présent, à Rosario, où il est 13h passé de 4 minutes. Javier Milei est en guerre contre les trafics de drogue dans son pays. Le gouvernement du nouveau président argentin annonce un projet de loi, une loi destinée à renforcer le pouvoir des forces armées dans le but de lutter contre le narcotrafic, mais aussi, et plus étonnant, de lutter contre le terrorisme. Théo Conscience est en Argentine pour RFI.
Une semaine après une nouvelle flambée de violence liée au narcotrafic dans la ville de Rosario, les ministres de la Défense et de la Sécurité ont annoncé hier un projet de loi destiné à lutter contre le crime organisé.
Le président de la Nation nous a donné des instructions pour que nous modifiions.
Le président de la Nation nous a demandé de modifier la loi de sécurité intérieure afin que les forces armées puissent intervenir et réaliser des opérations de sécurité dans le cas très particulier du terrorisme.
En Argentine, la lutte contre le terrorisme a servi de justification à la dictature militaire qui a fait 30 000 victimes entre 1976 et 1983. Interrogé en conférence de presse sur l'opportunité des mesures annoncées compte tenu de ce précédent historique, le ministre de la Défense a dénoncé un acharnement contre les forces armées.
Nos forces armées ont été diabolisées. Elles ont été éreintées à cause d'un biais idéologique. Elles ont été persécutées et au final, elles ne sont pas utilisées comme il faudrait.
Cette annonce intervient un jour après que le ministre de la Défense s'est affiché avec des proches de militaires condamnés pour crimes contre l'humanité pendant la dictature et tracé un parallèle entre la lutte actuelle contre le narcotrafic et celle contre le terrorisme d'extrême gauche dans les années 70. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
L'eau peut être source de paix ou de conflit, peut-on lire sur le site internet de l'ONU ce vendredi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et à cette occasion, les Nations Unies rappellent qu'il est urgent de gérer cette ressource essentielle. Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour Adrien.
Parce qu'il faut bien le rappeler, l'accès à l'eau est un droit humain.
Oui, tout à fait, Adrien. Et l'eau est aussi un important facteur de prospérité et de paix. C'est ce qu'explique un rapport publié aujourd'hui par l'ONU. Richard Connor en est le rédacteur en chef.
Sans accès à une eau propre, les gens sont exposés à toutes sortes de maladies. Les maladies vont leur empêcher d'aller à l'école, vont leur empêcher d'aller travailler, d'être productifs. Sans eau, on n'a pas d'électricité. Sans eau, on n'a pas de sécurité alimentaire, pas de production agricole. Sans eau, on n'a pas d'industrie. 65 % de tous les emplois sur la planète, y compris 80 % des emplois dans les pays en voie de développement, sont directement dépendants à l'eau. Donc, l'eau et la prospérité sont directement reliées. Il semble logique que des personnes qui ont la chance de vivre de façon prospère sont moins enclins à des tensions, des disputes, des conflits.
Or, Stéphanie Schuller, 2 milliards 200 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à une distribution d'eau potable.
Tout à fait, et 80% de ces personnes vivent en milieu rural. Peut-être que vous vous souvenez, Adrien, que l'ONU s'était fixé un objectif. D'ici 2030, tous les habitants de la planète devraient avoir accès à l'eau potable. Cet objectif ne semble plus du tout réaliste. Bien au contraire, l'UNESCO estime même que les inégalités vont continuer de se creuser.
Alors pourquoi ?
À cause notamment du changement climatique. Comme vous le savez, le réchauffement de notre planète perturbe gravement le cycle de l'eau. Cela veut dire que certaines régions dans le monde sont frappées par des inondations dévastatrices, alors que d'autres régions subissent des sécheresses extrêmes. En 2022, la moitié de la population mondiale a été confrontée à de graves pénuries rideau pendant au moins une partie de l'année.
Et enfin, que peut-on, que faut-il faire ?
Eh bien, l'ONU demande à ce que l'accès à l'eau soit l'une des priorités de tous les investissements à venir pour l'adaptation au changement climatique. Et puis, pour éviter des conflits, il faut trouver des accords juridiques entre les pays qui se partagent une ressource en eau, une sorte de diplomatie de l'eau, Adrien.
Merci beaucoup Stéphanie Schuller dans le journal En français facile. On referme ce journal par cette information en provenance du Sénégal. C'est un rallye surprise à 2 jours de l'élection présidentielle. Le Parti démocratique sénégalais, le PDS de Karim Ouad, appelle à voter pour le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, candidat de l'ex-PASTEF, Karim Ouad lui-même ayant été disqualifié de la course à l'élection présidentielle sénégalaise. Ainsi se referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Vous pouvez le lire également quand vous voulez sur notre site internet.